Connaissances et témoignages.
Chers auditeurs, bonjour. Nous avons le très grand plaisir d'accueillir aujourd'hui l'abbé Joël Guibert qui va nous entretenir des trois derniers ouvrages qu'il a publiés, trois ouvrages remarquables, très accessibles, que je vous recommande chaleureusement. « Vivre le Notre Père », paru aux éditions Teki, vendu 16 €. « Jésus, maître de vie intérieure », chez Arthège, 335 pages, 18,90 €. Et « Le combat spirituel », le dernier paru chez Arthège, 18 €. Monsieur l'abbé, vous êtes une personnalité bien connue du public catholique, prêtre du diocèse de Nantes. Vous prêchez des retraites en France et à l'étranger. Vous écrivez des livres de spiritualité, toujours accessibles, mais d'une grande force, et qui sont là, dirais-je, pour secouer les consciences endormies. Au cours des 2 années écoulées, vous avez publié les 3 ouvrages que je viens d'évoquer. 2 abordent directement les personnes du Père et du Fils, tout en faisant la place belle au Saint-Esprit. Le plus récent aborde une question laissée trop souvent de côté à l'heure actuelle, celle du combat spirituel. Nous disions que le monde actuel avait un problème avec le Père, qu'il avait un problème avec la croix. Voyant les choses en face, il a également un problème avec le Fils. La double nature du Seigneur, vrai Dieu, véritablement Dieu, et vrai homme, véritablement homme, pose problème à la société actuelle. Vous allez me dire que c'est une vérité qui a toujours posé problème depuis les fondements du christianisme. Mais pourquoi ce problème justement avec Jésus, que nous acceptons comme le Dieu copain, effectivement, mais si difficilement comme le Dieu fils, la seconde personne de la Trinité, le Rédempteur, le Sauveur?
Écoutez, c'est très simple. C'est très simple. C'est que accueillir le Jésus-Christ, cet homme particulier qui a vécu il y a 2000 ans, qui est en même temps le Fils de Dieu, fait que, comme conséquence, il est donc la vérité sur Dieu. Il est donc l'unique vérité. Il le dit lui-même. Il ne dit pas Jésus dans l'Évangile, « Je suis une vérité parmi d'autres, un chemin parmi d'autres, etc. » Il dit « Je suis la vérité et la vie. » Et c'est intolérable pour cette société actuelle de toutes les démocraties libérales libertaires, pour lesquelles un des fondements, c'est le relativisme, si pointé, si bien pointé par notre Benoît XVI. C'est intolérable pour les sociétés actuelles qui se réclament de cette idéologie, c'est intolérable qu'une religion vienne nous dire que son fondateur n'est pas une vérité parmi d'autres, mais la vérité. Voilà pourquoi le Christ, dans les temps qui vont venir, va être très attaqué dans sa divinité.
Mais ce qui est très étonnant, c'est ce relativisme et cette agressivité vis-à-vis de la vérité catholique. Ce qui me surprend, c'est que je pourrais à la rigueur comprendre, si nous étions encore à l'époque de l'Église triomphante, si nous avions l'Inquisition derrière nous, je ne sais quoi, mais cette vérité, on ne leur pointe pas un revolver sur la tempe pour les obliger à l'accepter. Alors qu'est-ce qui les dérange?
Écoutez, je crois qu'il faut aller très loin. Je viens de lire une très belle intervention du fondateur de la famille Saint-Joseph qu'il a faite à des exorcistes, reprenant entre autres les travaux de Mgr Skouyans. Il y a un projet planétaire, la mondialisation en est un des éléments, de faire une humanité avec un gouvernement mondial et dans lequel il y a une volonté de faire une religion universelle. Et les paroles sont très claires de certains intervenants de haut niveau. Et Mgr Skouyans est donc repris par ce fondateur là dans son intervention, dit si on veut mettre en place une religion fourre-tout dans laquelle toutes les religions vont rentrer, vous êtes bien obligé d'enlever la prétention universelle qu'un juif aura, qu'un musulman aura, et cela ne me scandalise pas du tout qu'un musulman dise « Notre Dieu est le seul vrai Dieu » et que des catholiques disent que « Notre Dieu est le seul vrai Dieu ». Et donc, on va créer, en fait, une religion des valeurs. C'est la fameuse prophétie du philosophe russe. D'ailleurs, je crois qu'il vient de sortir un film là-dessus, Solofiev, donc, qui nous dit qu'en fait, ce qui risque de venir comme apostasie, c'est un christianisme sans Christ, c'est-à-dire une religion des valeurs. Et c'est très intéressant parce que quand vous écoutez à droite, à gauche, on voit bien que la grande tentation actuellement dans l'Église, dans les hommes d'Église, les gens en responsabilité, tout ça, même les laïcs, hein, c'est pour pas déplaire à cette idéologie d'annoncer des valeurs qui vont bientôt être réduites à tout simplement des valeurs républicaines. C'est une grande, grande tentation actuellement. Le pape actuel, François Ier, le dit très fortement, c'est la tentation de la mondanité.
Or, ces valeurs, vous parlez des valeurs républicaines, certains philosophes vous diraient qu'on est encore à essayer de comprendre ce que sont d'ailleurs les valeurs républicaines en question, elles ne sont pas très nettes, auraient plutôt tendance à éloigner les hommes de l'Église que de les attirer, mais c'est le but. Mais ce qui est le plus frappant, c'est que ça ne remonte pas à hier. Dès les années 50 et même avant, vous trouvez des exégètes, des théologiens qui essayent de vous démontrer, par exemple, que les miracles dans l'Évangile sont une sorte d'invention des primitives communautés, que cela ne s'est absolument jamais passé. Si on sort le miracle de l'Évangile, que reste-t-il du Christ ?
Je dis souvent aux gens dans les retraites, enfin souvent, quand on aborde cette question de la foi, et donc je le propose à nos chers auditeurs, un très bon test personnel pour votre foi. Dis-moi comment tu te situes par rapport au miracle, je te dirai ta foi. Il y a, comme le dit Jean-Paul II dans ses conférences, comme le dit Benoît aussi dans son livre sur Jésus de Nazareth, il y a un très très grand soupçon, une très grande tendance aux soupçons sur le surnaturel aujourd'hui.
Pourtant, certains croient à un surnaturel d'un autre genre, parfaitement diabolique. Il suffit de voir l'attirance de certains pour le satanisme. Il y a une recherche du surnaturel dans le monde, mais pas du bon. Pourquoi est-ce que justement nous refusons le surnaturel de Dieu ? En tant que postulatrice, je vois remonter vers moi ce qu'il faut appeler des miracles. Et je constate que ce sont des événements absolument anormaux d'un point de vue médical, mais qui ont toujours été obtenus par la foi déracinée les montagnes de ceux qui les ont obtenus. Le miracle ne vient qu'à celui qui y croit.
Oui. Un ami médecin, donc, qui est plutôt porté sur la science quand même, hein, par définition, me rapportait une parole de l'astrophysicien Hubert Reeve, qui est agnostique, c'est très intéressant. Alors je vais essayer de ne pas le traduire, parce que c'est très condensé. Il dit, les miracles, dit cet astrophysicien qui n'est pas croyant, mais respectueux de la démarche. Vous allez voir à quel point il est respectueux. Il dit, les miracles, on dit souvent, j'y croirai quand je les verrai. Si on voulait être exact, on devrait dire plutôt, je les verrai quand j'y croirai. Regardez, si c'était le cas que les miracles s'imposaient d'emblée, avec ce qui s'est passé à Lourdes, simplement pour ce qui s'est passé à Lourdes, ou pour vous qui vous occupez d'un certain nombre de postulations, de causes, pardon, simplement ces miracles-là feraient que la France serait entièrement chrétienne. Or, elle ne l'est pas. Le miracle ne s'impose jamais. Il faut la foi pour le voir. Et je ne le verrai que lorsque j'aurai la foi. Sinon, ce sera de l'autosuggestion, etc.
C'est très vrai. Je me souviens que quand nous avons obtenu le premier miracle, la cause de l'abbé Guérin, qui était vraiment tombé à la renverse, j'ai dit à Monseigneur Scherrer, la seule chose qui me tracasse, c'est que ça a pris quand même quelques jours. Il ne s'est pas relevé comme ça. Il m'a répondu, vous imaginez quand même, dans l'état où il était, s'il avait tiré sur les fils, s'il s'était levé de son lit, Dieu est discret. Et c'est profondément vrai. Dieu ne nous force pas. Si les miracles étaient là pour, sans arrêt, pour nous obliger à voir, oui, nous serions tous chrétiens, vous avez raison. Mmh. Et on en revient au problème de la liberté de l'homme. Cette liberté qui prouve que Dieu nous respecte, on n'est pas des chiens qu'il a attachés à la niche. Hein.
Si vous me permettez de rebondir, Anne, ça amusera beaucoup nos auditeurs, vous allez voir la sagesse des saints à propos des miracles, fameuse liberté que vous évoquiez à l'instant. Tout le monde aime le Padre Pio, c'est une sorte de sainteté hors norme. Si vous allez sur les autoroutes en Italie, à la différence de chez nous, où la sacro-sainte laïcité fait qu'il ne faut surtout pas de signes religieux, vous verrez dans les stations-service énormément d'objets religieux de Padre Pio. Je reviens à notre sujet. Un jour, il y a un fils spirituel de Padre Pio, qui, je crois, est une personnalité très connue en Italie. Je ne sais plus si c'était un acteur. Et puis, donc, il avait été touché par la grâce du Padre Pio, tous ces miracles et tout ça. Et puis, il dit, avant d'aller voir le Padre Pio, je vais voir mon médecin. Et le médecin, il lui dit, tiens, je vais voir Padre Pio. Comment tu vas voir cet imposteur qui croit à ses miracles et à ses stigmates? Mais tout simplement, c'est de l'autosuggestion. Alors le type, tout perturbé, va voir le Padre Pio et il lui dit, tiens, je viens de voir mon médecin et voilà ce qu'il m'a dit. En gros, il m'a dit que vos stigmates, c'est de l'autosuggestion. Sagesse du Padre Pio. Tu iras trouver ton médecin. Puis tu lui diras de très fort penser à un bœuf. On verra s'il lui pousse des cornes. Vous ne trouvez pas ça extraordinaire?
C'est merveilleux, mais c'est l'extraordinaire sagesse du Padre Pio, son humour. Mais on en arrive toujours au même problème. C'est que nous refusons le surnaturel parce que nous refusons ce qui va avec. Il est plus facile, d'une certaine manière, de s'entendre avec le démon qui fait de belles promesses. Tant pis pour ceux qui y croient, d'entre Dieu soit dit. Mais ça a des exigences surnaturelles chrétiennes. Et nous en revenons à une autre question. C'est que nous n'osons plus aborder le problème des fins dernières. Ça fâche.
Écoutez, ouais, c'est encore un des ouvrages que le bon Dieu m'a demandé d'écrire. Je l'ai écrit. Je précise qu'en fait, la quasi-totalité des livres, ce sont des retraites qui deviennent livres. Hein. Et donc, j'ai eu la grâce de donner cette retraite. Je vais la donner dans quelques semaines maintenant. Au foyer de charité de Courset. Et je me disais, la première fois où je l'ai donné, oh là là, j'avais peur, pour reprendre vos mots. J'avais peur parce que je me suis dit, mais attends, mais les cathos, on ne leur parle plus des fins dernières. Et dans cette semaine de retraite, je vais passer, excusez-moi de l'expression, une journée en enfer, puisque je vais passer une journée à parler de l'enfer, une journée à parler du purgatoire, le ciel, bien sûr, etc. Et j'ai été sidéré de voir l'impact dans les âmes. L'impact, par exemple, sur le deuil des personnes en une semaine. Mais pas que cela. J'ai été frappé de voir comment certaines vies qui étaient tordues se sont remises dans l'axe, tout simplement, non pas par une pastorale qui chercherait à faire peur, mais l'annonce de les fins dernières vient nous redire la gravité de cette vie sur terre. Nous préparons notre au-delà.
Mais est-ce que nous ne sommes pas coupables de ne pas le rappeler aux autres? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte de non-assistance à la vie éternelle en danger? Ce que disait le curé d'Ars, me semble-t-il, quand on lui reprochait de prêcher trop sur l'enfer, il dit « je préfère les faire monter à coups de pied que de les laisser dégringoler à force de bonasserie ». Mais c'est très profond.
Je me demande si dans l'Église, on n'a pas été victime de deux choses, ce que de l'humour appelle la pastorale de la peur. Moi, j'avoue que je prends mes distances un peu avec cet argument-là. Mais aussi, je pense, ce n'est pas moi qui le dis, c'était un cardinal de Lyon à l'époque, une sorte de compromission avec le marxisme. Et le marxisme nous disait, entre autres, que annoncer les fins dernières, c'était démobiliser les gens pour leurs engagements contre l'injustice. Et je me demande si on n'a pas écouté tous ces maîtres du soupçon et on s'est aligné sur leur mise en garde, et ce qui fait qu'on a laissé passer à la trappe les fins dernières. Je voulais rajouter quand même quelque chose, c'est que les lignes sont en train de bouger. Par exemple, pour un des livres, je me retrouvais auprès d'un couvent de dominicains, où là, on annonce la vérité, hein, et où j'avais eu la grâce de prêcher, où j'ai quelques amis dominicains. Et un des moines, des religieux dominicains, qui s'occupe du grand pèlerinage du rosaire, me dit « Oh, Père Joël, vous allez être content on a décidé, bien sûr, il y aura la prédication officielle avec un thème officiel, mais nous ferons des soirées, plusieurs soirées, à ne parler que des fins dernières. Ben, » je lui dis, c'est pas moi qui va être content. Enfin, je le suis, mais c'est d'abord vous, parce que vous allez en voir les fruits, et puis surtout, c'est le peuple de Dieu.
Mais il y a quelqu'un qui a tout intérêt à ce qu'on n'en parle pas des fins dernières. C'est celui dont on ne parle pas non plus, parce que ça fait, tout le monde sait que c'est un problème psychanalytique, une façon se débarrasser de notre propre responsabilité en les lui faisant porter. Mais le diable existe.
Bien sûr, vous connaissez, vous avez certainement, vous qui avez de la culture, ma chère Anne, ce mot de, qu'on lui attribue, hein, la plus grande ruse de Satan, hein, c'est Baudelaire qui disait ça, encore que c'est pas forcément Baudelaire, semble-t-il. Il a emprunté ça à un curé. Mais la plus grande ruse de Satan, c'est de nous faire croire qu'il n'existe pas. J'ai eu la grâce de passer 2 années en Afrique. Et je me souviens d'une formation pour jeunes, à la différence d'ici, vous les comptez sur les doigts de la main quand ils se déplacent. Là-bas, la salle était pleine et ils avaient invité l'évêque auxiliaire. Et j'étais le seul blanc, entre guillemets. Et je leur ai entendu dire à propos du diable, « Ah, chers jeunes, nous, Africains, nous le voyons peut-être un peu trop partout, mais vous, les Blancs, en me regardant, j'étais le seul Blanc, vous ne les voyez plus nulle part. » Et il a raison. Et quand il n'est plus vu nulle part, bah, qu'est-ce qu'il a à faire? Il a un boulevard devant lui. Il n'a même plus à se battre, puisque il peut travailler comme ça, très visiblement, puisque on a décrété qu'il n'était pas visible.
Il n'y a plus qu'à le laisser faire, en fait. Et pourquoi se priverait-il? Mais comment démasque-t-on les menées du diable et comment y résiste-t-on?
Ben, je pense que c'est le Christ qui met en évidence le voisin d'au-dessous. Et donc, plus on va s'approcher du Seigneur Jésus, plus on va voir, par contrainte, celui qui travaille dans la noirceur. Comment ensuite lutter contre lui? Ben, c'est très simple. Je crois que c'est Napoléon qui disait que c'était très important de connaître la tactique de l'ennemi et d'enfoncer là où il y avait un point de faiblesse. Il faut voir la tactique du diable, pour reprendre
le mot de Lewis.
Le livre très connu de Lewis. Quand on connaît la tactique du diable, ben on va répondre par une tactique, une anti-tactique du diable. On va voir qu'il est le séducteur. Par exemple, je donne un petit exemple. Selon que on est, quand on recherche pas Dieu, que va-t-il faire sa tactique? Ben, ça va être très simple, c'est qu'il va nous encourager dans le péché. Supposons qu'on se convertit ou qu'on essaye de vivre un renouveau dans notre foi. Ben, il n'est pas fou. Il voit bien que ça va pas être la même tactique. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire désirer, mais subtilement, quelques déviations, etc., etc. Et donc, on va avoir davantage de facilité à repérer sa tactique de séducteur, comme il l'a pratiquée, par exemple, dans la Genèse.
Vous évoquez un tentateur plus subtil, parce qu'il est en nous, c'est la philotie, l'amour de soi. Est-ce que nous sommes tellement attachés à ce moi, est-ce que nous l'aimons tellement qu'il nous empêche effectivement de rejoindre Dieu? Mais est-ce que beaucoup de nos contemporains penseraient que c'est aliénant de renoncer à son moi?
En fait, ça fait partie des paradoxes de l'Évangile que nos maîtres du soupçon n'ont pas lu et qui le voient. C'est-à-dire que Jésus, effectivement, nous invite à nous perdre. Il invite à perdre le moi. Et en même temps, c'est pour le trouver. Tant qu'on n'a pas en tête ce paradoxe, la deuxième chose que je voudrais rajouter, c'est que dans le commandement d'amour, Jésus dit 3 choses. Et souvent, nous le rédisons à 2. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain, et n'oublions pas la finale, comme toi-même. Il y a donc un juste amour de soi-même qui n'a rien à voir avec le narcissisme, ce que dénonce l'Église. Toute la tradition spirituelle et les saints, c'est cette philotie, c'est-à-dire cet amour démesuré de soi. Mais il n'est pas possible d'être humain sans un juste amour de soi.
C'est le minimum, sans ça, nous perdrions complètement le sens de la logique et de notre propre personnalité, et notre bon sens, et notre raison même. Et vous évoquez à propos de raison ce que les Grecs appellent, les pères de l'Église grecque appellent les logismoi, on pourrait traduire ça par pensée toxique. Nous en faisons tous expérience, plusieurs fois par jour en général. Comment reconnaître une pensée toxique? Comment s'en débarrasser?
Écoutez, là encore je vais mouiller. Alors, dans les pensées toxiques, il y a les logismoi, pour reprendre votre expression. Il y a bien sûr les pensées qui vont nous inciter au péché. Mais quelque part, celles-ci sont assez repérables, parce qu'on n'a pas trop de peine à le voir. Les logismoi, les pensées toxiques à repérer, les plus importantes, ça va être par exemple des choses qui n'ont pas à voir avec le péché. Par exemple, je vais avoir une réunion demain qui me tracasse et je ne vais faire que penser à elle. Alors vous allez me dire, mais enfin, c'est pas un péché, mon père. Oui, mais ce que j'ai remarqué dans la vie, dans l'esprit, c'est que quand je pense trop à quelque chose et que je veux tout ficeler et tout organiser, que me dit l'Esprit Saint ? C'est beau ce que tu fais, mais tu ne me donnes pas de place. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler. Ce n'est pas vous, l'historienne, et qui êtes plongée dans les bouquins que je vais faire de l'anti-intellectualisme. Mais vous voyez, par exemple, saint Thomas d'Aquin dit ceci, qu'il nous faut faire de la théologie à partir des dons du Saint-Esprit. Bien sûr qu'il nous faut travailler, bien sûr qu'il nous faut penser à la fameuse réunion de demain. Mais occupation n'est pas préoccupation. Et quand il y a préoccupation trop importante, l'Esprit Saint se retire car il ne prend que la place qu'on lui donne.
Et nous avons de plus en plus tendance, quelquefois avec la meilleure volonté du monde, à lui attribuer ce qui vient de nous.
Oui, je voudrais donner un exemple. Au début où j'ai commencé à découvrir cette lutte contre les pensées toxiques, j'écrivais des livres, je devais être, je crois, au deuxième ou troisième livre, j'étais dans une abbaye, et au moment de la messe monastique, tout d'un coup, me viennent des bonnes idées, que je pense être des idées du Saint-Esprit, et pour écrire le livre, mais vraiment de très très bonnes idées, comme ça, et je laisse filer la pensée, étant donné que je pense que c'est du bon Dieu. Jusqu'à ce que j'entende, bon, ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, je n'ai pas un téléphone rouge directement branché, mais enfin, il est possible d'apprendre à discerner l'émotion du Saint-Esprit, c'est ce que nous recommande saint Ignace de Loyola. Et donc, je me mets à l'écoute du Saint-Esprit et j'entends, c'est moi qui interprète, mais bien sûr, c'est ce qui, pourtant, en substance, était le cas. L'Esprit-Saint me dit, mais enfin, tu crois que je suis manchot ? T'es à la messe ou quoi ? Sois à la messe. Tu crois que, même si ça vient de moi, ta pensée, tu crois que je ne suis pas capable de te le faire repenser à nouveau quand tu seras devant ton ordinateur ? Et puis ça te donnera en coupe en cours, parce que tu dois être à la messe et pas dans ton livre, ça te donnera de vérifier si ce sont, pour reprendre votre question, tes idées à toi ou mes idées à moi. J'ai coupé court, mes chers auditeurs. J'ai dit, je pose l'acte de foi de marcher sur l'eau. Je me suis retrouvé quelques heures après avoir vraiment vécu la messe, et non pas une pseudo-messe, en coupant court à ce que je croyais être des bonnes idées de Dieu, je me suis retrouvé devant l'ordinateur. J'ai été impressionné comment, en lui ayant donné le problème, l'idée, comment il me l'a redonnée au centuple. Je vous souhaite la même chose, la même petite aventure, chers auditeurs, et vous ferez une expérience de quoi ? Vous perdrez moins vos cheveux et vous aurez moins de cheveux blancs. Parce que tout simplement, on se fait beaucoup de cheveux blancs, beaucoup d'inquiétudes, et on ne se rend pas compte qu'en coupant court à ce qu'on pense être de bonnes idées, on permet à l'Esprit-Saint de nous prendre en charge et on est beaucoup moins tendu.
Mon père, cette émission touche à sa fin. Je vous remercie. Nous aurions pu parler encore plus d'une heure parce que c'est inépuisable et la richesse de vos ouvrages est remarquable. Je rappelle à nos auditeurs que vous avez publié ces 18 derniers mois « Vivre le Notre Père » aux éditions Teki, « Jésus, maître de vie intérieure » chez Arthège et « Le combat spirituel ». Mon père, peut-être prêchez-vous des retraites dans les prochaines semaines ou les prochains mois où certains auditeurs pourraient être tentés de venir. Comment fait-on ?
Eh bien, écoutez, je suis désolé, les retraites sont déjà pleines et puis il y a déjà des listes d'attente. Mais par contre, vous faites bien de me poser la question. Je vais prêcher à Vannes, sur le Sacré-Cœur, dans la paroisse cathédrale. J'ai oublié les dates, si vous me permettez d'être très simple. Chers auditeurs, si vous êtes intéressés, eh bien, allez sur le site perejoel.com, puisque là, je suis un prix de cours avec Anne pendant l'émission, je n'ai pas mon calendrier sous les yeux. Vous trouverez perejoel.com toutes les dates proposées. Mais sachez que la retraite d'une semaine qui est proposée est malheureusement pleine.
Chers auditeurs, nous étions avec l'abbé Joël Guibert qui nous a passionnés une fois de plus. Merci infiniment.
Je vous remercie, Anne.